culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture. Patrimoine, spectacle, visite et initiative, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 7 pour satisfaire votre curiosité. Aujourd'hui autour de moi, Dominique et Isabelle pour 30 minutes dédiées d'une part à l'urbanisme avec Roch Brancourt, adjoint au maire d'Angers, et d'autre part à la culture avec une interview de Jérôme Clément, grand animateur de la vie culturelle française. Aujourd'hui, nous parlons urbanisme et plus particulièrement de celui du centre des grandes villes. Et pour nous plonger dans le sujet, Dominique, vous commencez par nous donner une définition.
Eh bien, l'urbanisme, c'est un ensemble de sciences relatives à l'aménagement des espaces en vue d'assurer le bien-être de l'homme et d'améliorer les rapports sociaux, bien sûr, tout en préservant l'environnement. Et pas de meilleur interlocuteur pour en parler que Roch Brancourt. Bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons parce que vous êtes à la fois vice-président du conseil régional, vice-président de la communauté urbaine d'Angers-Loire Métropole et en charge de l'aménagement et de l'habitat. Mais vous êtes aussi surtout, si je puis dire, adjoint au maire d'Angers en charge de l'urbanisme. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on parle de tous les aspects de l'urbanisme, parce que c'est immense, mais d'un seul point très particulier, celui directement lié à l'évolution de notre société. Je l'intitulerai « Reconversion des bureaux du centre-ville en logement ». Et c'est en fait, en réalité, le cas de la poste centrale derrière la place du Ralliement. C'est aussi le cas de la caisse d'épargne boulevard Foch. C'est 5000 mètres carrés de bureaux qui vont être démolis. C'est aussi le cas du Crédit Mutuel, le long des quais de la Maine. C'est le cas du projet sur l'emplacement de l'actuelle Chambre de Commerce et d'Industrie, pour partie c'est vrai, boulevard du Roi René, et peut-être demain d'autres projets dont l'ancienne gendarmerie, place de la Cathédrale ou le collège attenant. Alors c'est certes une grande chance pour la préservation du patrimoine d'Angers, notamment celui du XXe siècle, mais ça n'est pas sans poser des questions. Je vois M. Brancourt disparaître du centre-ville, des actifs qui vont se relocaliser en périphérie. Je crois que les quartiers de Saint-Serge, la gare sud ou le plateau des Capucins les accueillent bien volontiers. Mais comment ne pas se poser des questions sur un millier d'emplois délocalisés vers cette première couronne? Est-ce que la ville favorise ou essaye de freiner cette évolution de l'urbanisme liée à l'évolution de notre société?
Alors, vous avez tout à fait raison de vous saisir de cette question, de la poser et de peut-être même un peu de vous en inquiéter, car en effet, il y a dans ces projets urbains une concurrence des usages. Il y a une concurrence des différents usages de la construction pour occuper l'espace, utiliser l'espace. Et donc, on a l'habitat d'un côté, les bureaux, l'activité de l'autre, les commerces. Et la question se pose toujours de savoir, demain, dans cet immeuble qui va être rénové, transformé, qu'est-ce qui va y venir ? Un des sujets que vous n'avez pas mentionné, mais qui est important et qui guide aussi ces projets-là, c'est la rénovation ou la restauration de bâtis la plupart du temps anciens, parfois qui ont un caractère patrimonial et qui peut être amené à se dégrader ou en tout cas qui a besoin d'être rénové, restauré et amélioré sur le plan de la performance énergétique. Or, pour faire cette restauration, ce travail d'amélioration, souvent, l'usage qui est le plus performant économiquement, c'est de transformer ces locaux en habitat, car il y a une demande forte de logement et d'habitat sur notre territoire. Et ces lieux-là, qui ont un caractère un peu exceptionnel, eh ben, ils sont attractifs pour des gens qui sont prêts à mettre le paquet, si je puis dire.
Alors, est-ce que la ville aussi réfléchit aux raisons qui ont conduit ces transformations de bureaux en logements? Est-ce qu'il y a des notions d'accès, de parking? Est-ce que ça pèse dans le choix de la reconversion de ces bâtiments?
Alors c'est vrai que il y a tout un tas de questions quand des mètres carrés se transforment de bureaux en logements. Ça pose tout un tas de questions. D'abord, comment on va pouvoir y accéder, stationner les véhicules? Est-ce qu'il y aura assez de stationnement? Est-ce que la manière d'utiliser l'espace public autour sera adaptée? Est-ce que aussi on ne va pas, vous l'avez mentionné, repousser un peu plus loin du centre-ville, voire très loin, des locaux d'activité, de bureaux qui autrefois se retrouvaient dans le centre-ville. Et là, vous avez parlé de première couronne. Je dirais que quand on a des bureaux qui se construisent à la gare, à Saint-Serge, dans ces quartiers-là, on n'est pas non plus très éloigné du centre-ville. Donc, de notre point de vue, c'est quand même un moindre mal si les bureaux se retrouvent dans ces quartiers qui ne sont pas vraiment périphériques, mais qui sont à la porte du centre-ville. En revanche, il y a une question qui se pose, qui est de savoir, dans des bâtiments anciens qui vont faire l'objet de belles restaurations, est-ce que les logements vont pouvoir être accessibles à une diversité suffisante de la population, et pas simplement aux seniors ou aux personnes qui sont retraitées, qui vendent leur maison en périphérie d'Angers pour venir habiter en accédant à des mètres carrés à des prix très élevés, dans des certes des beaux logements, mais qui conduisent un petit peu à enlever de la mixité dans le centre-ville. Et ça, c'est une vraie préoccupation qu'on a, à laquelle on est attentif. On a activé un certain nombre de choses. Il y a des endroits dans lesquels on refuse qu'il y ait du logement qui se fasse. Il y a aussi beaucoup de bâtiments dans lesquels on ne va pas trouver que du logement. Vous avez situé l'ancien Crédit Mutuel, l'ancienne usine Cointreau plus exactement, va rester dans son enveloppe actuelle. Des locaux d'activité, de bureaux, des tiers-lieux, des choses comme ça. C'est uniquement dans les étages qui vont être ajoutés qu'on aura des logements. Vous avez cité aussi...
Alors la caisse d'épargne, les 5000 m2, j'imagine qu'à la belle époque, peut-être 250 à 300 personnes travaillaient à cet endroit-là.
C'est vrai.
Ces actifs-là participaient à l'animation et à l'intérêt du centre-ville. Je ne sais pas où toutes ces personnes ont été déplacées, délocalisées. En tout état de cause, on va avoir là peut-être une centaine d'appartements, peut-être un peu moins,
une cinquantaine.
C'est un changement radical de population. Est-ce que les promoteurs se sont pas lancés dans une course effrénée pour la réutilisation de ces bâtiments? Alors non pas en bureaux parce que c'est peut-être moins lucratif que des logements de standing comme vous en parliez tout à l'heure.
C'est vrai pour une partie d'entre eux, mais ce n'est pas exclusivement pour faire du logement de standing. Il y a dans ces bâtiments des logements qui sont achetés par des investisseurs, qui sont des petits types, type 1, type 2, type 3, et qui seront mis en location et qui seront accessibles par des locataires qui ne sont pas nécessairement les personnes les plus fortunées. Les loyers seront des loyers plutôt du niveau du marché. Alors certes, les niveaux des loyers augmentent sur Angers, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une grosse partie de ces logements qui restent du logement locatif. Après, il est clair qu'on essaye de maintenir des activités diverses sur ces lieux. Je voudrais prendre un exemple, par exemple, dans l'ancienne CCI, les vendeurs, la CCI, a décidé de garder des mètres carrés dans l'opération pour y faire un restaurant d'application de la chambre de commerce.
D'accord, ça c'est un maintien d'activité.
Voilà, donc on essaye de maintenir quand même sur une partie des mètres carrés et de négocier avec les promoteurs pour qu'il y ait quand même une diversité d'utilisation. On a par exemple demain, on va prochainement lancer un appel à candidature pour la reprise de l'école Bodinier. Et dans cette école, on ne permettra pas que ça soit 100% du logement parce que ça conduirait à modifier les locaux qui sont très, très intéressants à conserver dans leur style actuel.
Donc les élus ont à disposition réglementairement des dispositions qui permettent de freiner les ardeurs de ces promoteurs qui essayent de tout transformer en logement et souvent des logements de très fort standing.
Absolument, on essaye de concilier le besoin de logement et de rénovation avec des moyens financiers que nous apportent les promoteurs et en même temps de préserver des usages qui ne sont pas uniquement du logement et certainement pas uniquement du logement de standing.
D'accord, on est bien d'accord que le centre-ville d'Angers ne peut pas être exclusivement tourné vers le logement de standing et vers le tourisme.
Exactement.
Et qu'il doit encore trouver là place à d'autres activités. Rien de mieux que la mixité de population à l'intérieur d'une ville.
C'est bien notre projet.
Merci beaucoup, Roch Brancourt. Et maintenant, on va écouter un petit peu de rock avec les Death Valley Girls, du rock US. Elles seront en concert le 16 février à 20h30 au Shabada. Pardon. On écoute Bliss Out. Lundi 30 janvier, Jérôme Clément était l'invité de l'Université catholique de l'Ouest d'Angers dans le cadre du cycle de conférences En résonance. Isabelle, vous l'avez rencontré.
Oui, j'étais avec Dominique et on a découvert un homme qui a dédié sa vie professionnelle et personnelle à la culture. Il est né en 1945 et après une expérience de conseiller culturel en Égypte, il est entré au cabinet de Pierre Mauroy en 1981 en tant que chargé de la culture et de la communication. Depuis, il a notamment dirigé le Centre national du cinéma et s'est lancé dans l'aventure passionnante d'Arte qu'il a présidé pendant 20 ans. Il s'est ensuite engagé vers d'autres chemins, le conseil d'administration du Théâtre du Châtelet, la présidence de l'Alliance française, l'écriture d'une dizaine de livres et des émissions de radio à France Culture. Il préside depuis 2012 le festival Premier Plan et réside régulièrement dans le village du Toureil, sur les bords de la Loire. Homme de conviction, il nous a partagé son regard sur la vie culturelle et sur le patrimoine local.
Nous écouterons Jérôme Clément après une petite pause musicale. Une musique de film, le thème d'ouverture de La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, par le compositeur Bernard Herrmann. Vous êtes toujours à l'écoute de Franche Culture sur Radio Campus. Et maintenant, place à Jérôme Clément.
Jérôme Clément, bonjour.
Bonjour.
En quoi l'art et la culture sont essentiels dans nos sociétés ?
Vaste sujet. Mais si on n'a pas l'art et la culture dans la société, on fait quoi ? On produit, on consomme, on est uniquement un agent économique fait pour entretenir la machine, mais pour gagner sa vie, pour se reproduire, etc. Mais Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit à répondre à toutes les aspirations spirituelles, intellectuelles, les émotions et le goût du beau, c'est-à-dire la nécessité de perdre du temps sur des sujets, sur des thèmes qui vous enchantent, que ce soit un paysage, une œuvre d'art, une réflexion. Voilà, pour moi c'est essentiel, c'est vraiment le sens même de la vie, quoi, le sel de la vie.
Alors, dans votre livre « L'urgence culturelle », vous analysez l'évolution des politiques culturelles en France et vous dressez d'ailleurs un portrait sans concession de leur délaissement par l'État.
Oui.
Il est vrai, en 60 ans de 5e République, les Français ne retiennent que deux noms de ministres de la culture et on constate même qu'au cours de certains quinquennats, on a connu 4 ministres différents. Alors, la culture, c'est le parent pauvre en France ?
On ne peut pas dire ça sous cette forme, c'est-à-dire que...
Mais je suis un peu provocateur volontairement.
Oui, bien entendu, vous avez raison, mais les collectivités locales, les mairies, les régions, et même l'État consacrent pas mal d'argent à la culture. Et on ne peut pas dire qu'en France, on soit mal loti sur ce plan-là, même si en ce moment, c'est difficile, et ça l'a été ces dernières années, ça l'est encore. Mais... ça suffit pas, c'est-à-dire que c'est pas seulement un problème de moyens financiers, c'est un problème aussi de projet de société. Est-ce qu'un projet de société peut faire l'économie d'une réflexion sur la culture et sur sa place dans la société? Ça veut dire la question du temps libre, la question des loisirs, du divertissement et du temps qu'on peut consacrer à, comme je le disais tout à l'heure, à la recherche de la beauté, à l'émotion artistique. Et je trouve que les projets politiques se sont peu à peu éloignés de cette préoccupation, oui, qui a été très centrale pendant un moment. Elle a été, c'est vrai, avec Malraux,
bien
et
sûr,
De Gaulle, parce oui, que De Gaulle, pour des raisons différentes d'ailleurs, De Gaulle considérait que c'était un des éléments majeurs de la France, quoi. La France, sans culture, n'avait pas de... Elle perdait un de ses atouts majeurs. Sous Mitterrand, pour d'autres raisons, parce que lui-même avait une conception très forte de la présence de la culture dans la vie publique,
bien
et
sûr,
il en avait fait une priorité absolue de ses septennats. Il y a eu une vraie priorité, et c'était une préoccupation de l'époque.
Et on a mis des moyens suffisants pour développer cette ambiance culturelle en France.
Oui, il y a eu quand même pas mal de moyens. Il y a eu... on n'en a jamais assez, ne serait-ce que pour entretenir le patrimoine, par exemple.
Oui,
mais
oui,
malgré tout, il y avait des moyens. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et beaucoup d'actions qui ont été... Et puis ça s'est un peu dilué au fil du temps.
Oui.
Alors, vous êtes à l'initiative des nouveaux vitraux de l'église du Toureil. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et de votre collaboration avec l'écrivain Attar Benjelloun et Philippe Brissy, le maître verrier?
Oui, c'est-à-dire que ça c'est... Oui, sûr que moi, c'était une idée que j'avais depuis longtemps, puisque c'est un village qui m'est très cher, où j'habite quand même pas mal de temps. Enfin, j'ai passé depuis mon enfance beaucoup de temps, et l'église était triste, elle était sans beaucoup de beauté justement intérieure, et surtout très très peu colorée. Donc l'idée de faire des vitraux, donc de mettre faire entrer de la couleur à l'intérieur de l'église, me paraissait vraiment souhaitable. C'est un hasard de circonstance qui fait que j'ai rencontré Attar Benjelloun, qui m'a expliqué qu'il ne faisait pas seulement qu'écrire des livres, il était aussi plasticien, artiste.
Oui.
Et il m'a montré son travail, et qui était exposé d'ailleurs chez Patrice Trigano, rue des Beaux-Arts à Paris, et puis aussi à l'Institut du Monde Arabe. Et j'ai trouvé ça très, très beau, enfin une palette de couleurs intense. Et donc, je lui ai proposé de faire des vitraux, ce qu'il n'avait jamais fait. Et ça ne lui était pas venu l'idée. Donc, et moi non plus, d'ailleurs, c'est là, comme ça, dans la discussion et dans le plaisir d'être ensemble, que je lui ai proposé ça. Il a accepté. Ensuite, il est venu ici, au Toureil. Peu à peu, le projet a pris forme. On a rencontré les responsables religieux, puis évidemment les élus locaux, les maires. Moi-même, j'étais au conseil municipal, mais on a peu à peu fait tomber les obstacles qu'il pouvait y avoir à ce que Attar Benjelloun réalise des vitraux au Toureil. Et le maître verrier, Philippe Brissy, dont vous parlez, est venu après, une fois que le projet a été sur les rails, qu'on était sûr qu'on arriverait à le faire, on a cherché un maître verrier. Et c'est Elisabeth Anguehard, qui était maire déléguée du Toureil, qui m'a guidé vers Philippe Brissy, et ce qui a permis finalement de réaliser ces vitraux dans un délai assez rapide, court, hein. Assez court. On a mis deux ans entre l'idée et la réalisation, ça a mis deux ans, ce qui est finalement pas si énorme, même si l'église n'est pas très grande, enfin c'est pas grave, c'était un beau projet.
Et aujourd'hui, donc, vous êtes élu de cette nouvelle commune de Gênes-Val-de-Loire.
Je ne le suis plus.
Ah, vous ne l'êtes plus.
Non.
Mais est-ce que vous avez néanmoins des projets sur les grands monuments, et notamment sur l'abbatiale de Cuneaux, qui, depuis quelques décennies, souffre d'absence de travaux et de mise en valeur? C'est un des plus beaux monuments de la vallée, nous sommes bien d'accord.
On est bien d'accord. Mais bon, j'ai plus de responsabilité municipale depuis les dernières élections. J'ai trouvé que ça suffisait comme ça, mais... Il y a des projets de restauration et en particulier de refaire la couverture et de rétablir une partie de le transept,
de modifier les architectures des couvertures du chœur notamment
qui ont été un peu massacrées au cours des siècles derniers. Donc c'est un projet je pense qu'il verra le jour. Je pense pas qu'il y ait d'obstacle à ce qu'il se réalise.
Oui, mais pourtant on attend depuis plusieurs décennies que le projet aboutisse.
Oui.
J'ai peur de la dilution, des responsabilités dans une commune, Gênes-Val-de-Loire, qui est très grande. Il doit y avoir peut-être une dizaine d'églises, monuments historiques. Donc on ne doit pas savoir comment...
C'est un problème qu'il y a partout en France, c'est-à-dire qu'il y a un patrimoine civil et religieux considérable. Le patrimoine religieux souffre beaucoup de la désaffection des fidèles et aussi du fait que... Il n'y a pas assez d'argent pour entretenir tout et l'État ne peut pas tout faire non plus. Donc c'est vrai qu'il y a des risques, mais là je crois que le projet est bien parti. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit récemment.
J'en suis très content parce que nous attendons avec impatience une réelle mise en valeur d'un monument phare.
Vous avez tout à fait raison.
Et vous avez été aussi, au début de votre carrière, chargé de mission auprès du directeur de l'architecture.
C'est vrai, oui, ça m'intéressait beaucoup.
Quelques années après, quelques décennies après, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution de nos villages, des paysages de nos villages et sur l'architecture de nos habitats? Et vous êtes plutôt pour une réglementation stricte ou pour une ouverture débridée de la créativité architecturale?
Non, c'est-à-dire qu'il faut mélanger les deux, mais moi je suis plutôt pour une réglementation stricte. C'est vrai que les paysages sont, et les abords des villes en particulier, sont beaucoup enlaidis depuis... Oui. Quelques dizaines d'années. Et je
c'est bien le sens de ma question, oui.
Je trouve ça tout à fait regrettable qu'on ait laissé comme ça tous ces secteurs périurbains se dégrader sous l'emprise des centres commerciaux, des zones industrielles, les abords des grandes villes est vraiment catastrophique. Saumur en est un bel exemple.
Oui.
On arrive à Saumur, on est dans le centre Leclerc, et puis d'un seul coup... dans des échangeurs avant d'arriver dans une ville qui est ravissante. Donc c'est vraiment très 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 mauvais. Il y en a beaucoup comme ça. Je connais rien de pire, par exemple, que les abords d'Avignon. Quand on était à Avignon, c'est absolument splendide, mais alors pour y arriver, quel cauchemar. Donc tout ça, c'est dégradé.
Donc vous souhaiteriez un retour vers une réglementation telle qu'elle existait?
Oui, je pense.
Dans les années où vous étiez à cette direction?
Oui, enfin, à l'époque, on la mettait en place.
Ah elle était stricte.
Oui, mais enfin, on a eu beaucoup, beaucoup de mal aussi à la faire respecter. Il y avait des groupes de pression très considérables. Il y avait vraiment de très, très fortes résistances. Bien naturellement, les promoteurs immobiliers, les circuits de grande distribution. Enfin, c'était l'époque où on faisait d'énormes surfaces commerciales. C'était très, très, très difficile. Évidemment, les communes, c'était une aubaine, une manne financière qui leur tombait directement dans la poche. Et c'était très difficile de résister, mais c'est tout à fait regrettable.
Ouais. Est-ce que les élus doivent garder la main sur l'urbanisme, l'architecture?
Oui, bien sûr. Le problème, c'est que les élus ne sont pas toujours une garantie. Il y a aussi beaucoup d'élus qui n'ont aucune sensibilité artistique et qui font n'importe quoi. Donc, faut pas croire que les élus, c'est la réponse à tout. Moi, j'ai constaté, j'ai vu beaucoup de paysages saccagés par des élus, donc c'était pas là du tout la préoccupation. Donc, je suis pas partisan. Bon, on leur a donné les permis de construire, mais enfin, ça présente quelques risques aussi.
D'accord, donc il faut que l'État continue à veiller sur la conservation de nos paysages.
Je pense il faut qu'il y ait des garde-fous, il faut que... c'est tout le monde qui est responsable de la dégradation des paysages et des villes. les habitants, d'abord les premiers, qui souvent... ceci dit, c'est beaucoup font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais il faut des réglementations. On a le droit de construire n'importe quoi, n'importe où, et les communes doivent vivre, en ont la responsabilité. Mais enfin, si elles ne le font pas, il faut que l'État vérifie lui-même que tout ça ne va pas partir dans tous les sens. Quoi.
Alors maintenant, venons-en à la vie culturelle angevine. En dehors du festival Premier Plan, dont vous êtes le président, qu'est-ce que vous en pensez de la vie culturelle angevine? Est-ce que vous la pratiquez?
Alors, je la pratique sûrement pas assez, parce que je vis pas toute l'année en Anjou. Je vis à Paris, mais je suis souvent présent ici. Moi, je trouve qu'elle est riche. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a une vitalité à Angers qui est très grande et dans la région. Dans le domaine du théâtre, il y a quand même une scène théâtrale à Angers. Il y a la musique. Il y a beaucoup de choses. C'est une ville qui est et une région qui est très riche. Il y a beaucoup de festivals qui sont de grande qualité, donc je trouve que c'est plutôt encourageant. Alors on peut souvent faire mieux, il y a sûrement des tas de problèmes encore. Enfin, il y a de tout, il y a des musées, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a du cinéma, c'est plutôt pas mal.
Et on a même un festival de littérature prochainement, les fameux entretiens littéraires de la collégiale.
Oui, alors ça, c'est Antoine Boussin qui anime ces entretiens. C'est très bien, oui. Ce serait très bien, c'est le week-end prochain, je crois.
Oui, et le suivant.
Et le suivant, oui, donc c'est très bien. Non, mais ça, c'est formidable. Là, Antoine Boussin est un animateur infatigable et je trouve qu'il fait très bien, il fait un très bon boulot sur le plan littéraire. Hein. C'est très bien, il en faudrait d'autres, parce que dans le livre, on peut faire beaucoup de choses aussi. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut encourager à la lecture, c'est important.
J'aimerais parler, pour finir, un peu de paysage, parce que vous avez aussi manifesté une sensibilité particulière dans ce domaine. Et d'ailleurs, vous avez choisi de vivre au cœur du Val-de-Loire, patrimoine mondial UNESCO. Mais vous êtes aussi acteur de la vie culturelle à Angers, nous venons d'en parler. Est-ce que vous militez, vous aussi, pour une extension de ce site UNESCO sur l'ensemble du parcours de la Maine, qui est actuellement exclu du périmètre?
Alors, je ne suis pas compétent techniquement pour savoir pour quelles raisons le patrimoine de l'UNESCO n'a pas inclus la Maine. Je pense qu'il faut bien s'arrêter quelque part. Et sans doute, c'est pour la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait. Et je ne connais pas assez le dossier, c'est une façon pour ça. Enfin, moi, je suis partisan de protéger d'attirer l'attention, parce qu'il n'y a pas de contrainte juridique majeure quand on est patrimoine.
Non, c'est de l'accompagnement, absolument.
C'est de l'accompagnement. Oui. Donc, il faut sensibiliser quand même le public, les élus, à ce que l'héritage qu'on a la chance d'avoir soit préservé et maintenu, sans pour autant empêcher la modernité, la construction, etc. Enfin, il faut faire vraiment très attention. Je suis très content parce que justement, dans la commune de Genneval-de-Loire, dont on parlait tout à l'heure, il y a une nouvelle équipe municipale qui est très très sensible à cet aspect-là et qui fait très attention au cœur des villes. Parce que, encore une fois, c'est fragile. Quoi.
Ouais. Mais ce label UNESCO vous semble utile et nécessaire à la mise en valeur et la préservation de ces sites?
Oui, ça ne suffit pas. C'est comme le reste. C'est un label, comme vous le dites. Un label, ça n'a pas de force juridique.
Bien sûr.
C'est pas avec un label qu'on... Enfin, c'est quand même préventif. Quoi. Ça empêche ça peut empêcher ou gêner des constructions... ou des dérives très malheureuses, quoi.
Jérôme Clément, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture, tous azimuts en Anjou. Merci à Émilie pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sur en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous !